Vous écoutez RTL, première radio de France.
RTL.
Tour de France, quelle chance, de l'espoir remplit les cœurs.
La curiosité est un vilain défaut.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Quelle chance pour le vainqueur.
Depuis 1919, il désigne le leader du classement général du Tour de France à 3 jours de départ de la 104e édition. On découvre l'histoire du maillot jaune et de ceux qui ont fait sa légende avec le journaliste Claude Droussan. Ce maillot, Claude Droussan, c'est l'un des graals du sport mondial, surtout depuis la mondialisation du vélo.
Absolument, c'est quelque chose d'unique parce que, en fait, avez-vous remarqué que sur le podium des Champs-Élysées, le vainqueur du Tour de France a un trophée au bout du bras? Un vase de Sèvres. Personne ne sait ça. Parce que depuis 75, on remet un vase de Sèvres au vainqueur du Tour. Ce qui compte, c'est le maillot jaune. C'est ça, le vrai trophée. Mm-hmm. C'est pas unique dans l'histoire du sport. Il y a un autre événement énorme. C'est le Masters de Golf à Augusta, où le vainqueur de l'année précédente enfile une veste verte à celui qui vient de gagner. Mm-hmm. La veste verte, le maillot jaune, ça se ressemble un peu. C'est sans doute les deux plus beaux trophées du sport et ce ne sont pas vraiment des trophées.
Oui, c'est vrai, c'est un morceau de tissu si on schématise, mais avec tous les symboles qui sont associés. Le Giro qui a été diffusé avec succès sur la chaîne L'Équipe il y a quelques semaines, c'est un maillot rose. Alors tout à l'heure, en répondant à une question de Marco, je disais que c'était lié à la couleur des pages de la Gazzetta dello Sport. Est-ce que je me suis trompé ou est-ce que c'est bien ça?
Vous avez tout bon.
Ah bon, j'ai eu peur de ça.
C'était déjà, la Gazzetta dello Sport existait déjà quand le Giro a été créé.
Oui.
Là,
avant la date,
entre,
c'est pas grave, oui.
Entre le 1903 et le Tour de France, c'est avant 1910. Voilà.
D'accord.
Début du siècle, en tout cas. Et les pages étaient déjà roses et ça s'appelait déjà la Gazzetta dello Sport. Ouais.
Claude Droussan, vous publiez Maillot jaune, le Tour de France, par ceux qui ont écrit sa légende. C'est aux éditions Grund, j'ai bien dit. Et le premier n'est pas un vainqueur, c'est même pas un cycliste. Il s'appelle Henri Desgranges. Comment il a eu l'idée du Tour de France?
L'idée du Tour de France, en fait, c'est... On raconte aussi là que c'est son plus proche collaborateur. En fait, son journal allait très mal. Il y avait 3 quotidiens sportifs qui étaient un peu subventionnés par le début de la pub auto. C'est les premières autos, mais surtout la pub vélo. Et il y avait 3 quotidiens sportifs sur le marché. Les 3 allaient mourir parce qu'il n'y avait pas de marché pour 3. Et le collaborateur de Desgranges, qui s'appelait Géo Lefebvre, il paraît que ça s'est décidé à la brasserie Zimmer à Paris. Il lui a présenté ce projet en disant, mon cher Henri, voilà, j'ai une idée. Un Tour de France. Il y avait déjà des grandes courses cyclistes, Bordeaux-Paris, Liège-Bastogne-Liège en Belgique.
Donc un Tour de France pour faire la publicité d'un journal, en fait.
Exactement.
Incroyable. Pour remplir ses pages aussi.
Mais
pour donner de la matière, quelque chose à raconter.
Pour donner de la matière. À l'époque, il n'y avait pas d'actualité sportive. Aujourd'hui, on est dans des calendriers sportifs où il n'y a plus de place pour rien. On ne peut plus inventer quasiment aujourd'hui dans le sport. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de place dans le calendrier pour exister médiatiquement. Mmh. Les calendriers étaient complètement vides à l'époque. Il n'y avait pas de Coupe du Monde de foot. Les Jeux Olympiques n'étaient rien.
Voilà. On est donc au tout début du XXe siècle, c'est
tout
ça.
Tout début, oui. Ouais. 1903.
Et les initiales d'Henri Desgranges, HD, on les retrouve aujourd'hui?
On les retrouve aujourd'hui.
Sur le maillot jaune, c'est ça?
Exactement, sur le maillot jaune. Aujourd'hui sur les épaules. Et en fait, elles ont un moment disparu.
Elles se sont baladées, quoi.
Elles se sont baladées, elles ont un moment disparu. C'est Jean-Marie Leblanc, directeur sportif, dans les années 90 et à la début des années 2000, qui a décidé pour le centenaire du Tour en 2003 de refaire réapparaître sur le maillot jaune ses initiales HD. Et puis son successeur, Christian Prudhomme, a conservé cette bonne idée.
Ouais, c'est une très bonne idée. Henri Desgranges, vous nous l'avez raconté tout à l'heure, qui a donc, en 1919, décidé de remettre le premier maillot jaune au bout de quelques jours de course dans ce Tour de l'après-Grande Guerre. Qui porte ce premier maillot jaune? Et alors, est-ce que ça fait l'événement? Est-ce que tout le monde en parle?
Personne n'en parle, puisque ça a été annoncé, la création du maillot jaune, par un entrefilet dans l'auto, une semaine avant que le premier maillot soit livré, parce qu'il fallait le tricoter, enfin le confectionner. Il fallait qu'il soit livré, parce que le Tour, il devait être livré à Marseille, puisque le Tour était dans le sud, allait remonter par les Alpes, il devait être livré à Marseille, on devait remettre ce premier maillot jaune à Marseille. À Marseille, le maillot jaune n'est pas arrivé à temps, donc on l'a remis pour la première fois à Grenoble, avant le départ de l'étape de Grenoble, à minuit, dans l'arrière-salle d'un troquet, d'un bistrot.
C'est dingue, quand on sait le destin de ce trophée.
Il n'y avait plus que 15 coureurs en course. Oui. Et le témoignage d'Eugène Christophe, qui a vécu très longtemps et qui a témoigné notamment sur radiophoniquement très longtemps dans les années 60-70, racontait que le fait que lui ait ce maillot jaune et que tous les autres coureurs, comme on a dit tout à l'heure, en gris, les autres coureurs se moquaient de lui. Ils disaient Christophe, t'as l'air d'un canari.
C'est le vilain petit canard.
Fait cuicui. Ouais, ouais. les coureurs se moquaient de lui. En fait, ça ne voulait rien dire à l'époque. Rien.
Est-ce qu'il va remporter ce Tour de France, Eugène Christophe ?
Pas du tout, le pauvre. Eugène Christophe, c'est Poulidor avant Poulidor. Sauf que Eugène Christophe, lui, a porté le maillot jaune. Mais c'est vraiment, c'est un peu la même histoire. Mmh. Un héros français de la même dimension que Poulidor, à toute époque, bien sûr, comparable. Et déjà en 1913, il était en tête dans les Pyrénées, il casse sa fourche. C'est là, c'est la fameuse anecdote qu'on raconte où il allait réparer sa fourche à Sainte-Marie de Campan, chez un forgeron. Il a descendu à pied le Tourmalet. Il avait 3 heures de retard. Il a réparé sa fourche lui-même à la forge. Et il a pris une amende d'une heure parce qu'il a demandé à un apprenti d'entretenir le feu. Et il n'avait pas le droit d'aide. Et en 1919, il est en tête. Il va gagner le Tour de France. Il reste 2 étapes. L'avant-dernière étape passe sur les pavés du Nord, il tombe dans un trou sur les mauvais passés, il recasse sa fourche, il repère 2 heures, et c'est un Belge dont on se souvient pas, qui s'appelle Firmin Lambeau, qui est le premier maillot jaune à arriver à Paris, qui gagne ce Tour de 1919.
Alors au fait, qui détient le record du nombre de jours en jaune? Si je vous dis un Belge surnommé le cannibale, bon, vous avez trouvé. Allez, à tout de suite sur RTL.
La curiosité, c'est jusqu'à 22h sur RTL. Vous écoutez RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité de découvrir les héros du Tour de France qui ont porté le maillot jaune et ont écrit sa légende, et c'est le journaliste Claude Droussan qui nous raconte. Vous avez été directeur de la rédaction de l'équipe, grand spécialiste du cyclisme. Vous avez combien de Tours de France à votre actif? C'est important, ça, on les collectionne en général.
Bah ouais, mais moi j'ai du mal à les collectionner parce que j'en ai fait des petits bouts de pas mal. Disons que je suis plus ou moins dans le Tour de France depuis le début des années 80.
Quel est le coureur qui vous a le plus impressionné?
Bernard Hinault. Enfin, que j'ai vu en activité, que j'ai vécu en tant que journaliste. Enfin, l'activité dont je peux témoigner, c'est Bernard Hinault.
La personnalité, le talent?
Mais c'était une personnalité sur le vélo, donc avait un talent énorme, une physiologie incroyable. Et puis, quand on se souvient du Tour 86, où il a donné sa parole à Greg LeMond, qui va le laisser gagner, puisque LeMond l'avait un peu laissé gagner l'année d'avant. Mais en fait, sur la route, il lui prend autre chose dans la tête. Il a plutôt envie de gagner, donc il fait des trucs incroyables, fous, jusqu'à tomber en panne de carburant. Enfin, des choses incroyables. Enfin, Hinault faisait des choses incroyables. C'était un tempérament. Et sinon, la personnalité, et je m'en excuse, ce qui m'a impressionné le plus en tant qu'homme de l'avoir en face à face, par exemple, c'est Lance Armstrong, très loin, qui est pas vraiment un humain, en fait, à vrai dire, un peu humanoïde, un peu robotique. Voilà.
Et vous en excusez parce qu'il a été rayé des palmarès, évidemment.
Oui, il a été rayé des palmarès, mais enfin, j'ai pas de problème, j'ai pas de problème à dire qu'il m'a impressionné, parce que quand j'étais à la tête de l'équipe, on a été les premiers à dénoncer son dopage, et c'était toujours un personnage un petit peu compliqué, mais en tout cas, une personnalité vraiment, vraiment à part.
Avec une main de fer sur le peloton, c'est ça, Lance Armstrong, c'était...
Oui, une main de fer sur le peloton, mais une main de fer surtout, c'est-à-dire que quand vous étiez en face de lui, qui voyait que vous n'étiez pas convaincu par ses propos, il s'approchait jusqu'à coller son visage quasiment contre le vôtre, et puis il enfonçait son index dans votre poitrine, comme ça, en disant... Pour appuyer son propos, c'était même physique, enfin c'était
c'est
très...
C'est l'intimidation physique.
Charismatique et un peu fou, quoi, presque.
Non, pas fou, parce qu'il est extrêmement intelligent, mais très, très, très particulier, en tout cas.
Alors, vous publiez Maillot jaune, le Tour de France par ceux qui ont écrit sa légende aux éditions Grunt. On y découvre qu'il y a une hiérarchie des jours en jaune. Évidemment, le recordman, c'est donc ce cannibale dont je parlais tout à l'heure. Eddy Merckx, c'est ça? Combien de jours en jaune, alors?
96 jours. Alors, 96 soirs où il était leader du Tour. En fait, on compte comme ça. Les jours en jaune, ce sont les soirs où on vous a remis un maillot jaune sur le podium.
Ouais. Et Lance Armstrong pourrait être en deuxième position, mais il a été rayé des classements, donc on oublie. Voilà. Et donc, le premier Français, juste après, c'est Bernard Hinault. 75 jours avec le maillot de leader sur les épaules. Est-ce que ça suppose des responsabilités d'avoir le maillot jaune? Est-ce que l'équipe du maillot jaune porte un peu le Tour de France?
Bah, elle est obligée parce qu'il y a déjà une position à défendre. Ça, c'est le cyclisme, la course cycliste, c'est un jeu d'échecs un peu, où en fait, c'est pas une confrontation directe comme au tennis ou comme au foot où on est l'un contre l'autre. Dans le cyclisme, il y a 22 équipes au départ. Au bout de 10 km, vous allez avoir 7 rivaux et 3 alliés. Et puis 50 km plus loin, parce que la physionomie de la course aura changé, vos rivaux de tout à l'heure vont devenir vos alliés. Enfin, c'est très compliqué. C'est un jeu d'échecs. Donc, effectivement, on a coutume de dire que l'équipe du maillot jaune doit porter la responsabilité de la course, c'est-à-dire rouler derrière les échappés, des choses comme ça, c'est un petit peu compliqué.
Ça veut dire quoi, rouler derrière les échappés pour les néophytes en Tour de France?
Rouler derrière les échappés, c'est se mettre en tête de peloton de façon à imprimer un rythme au peloton qui fait qu'on régule un petit peu l'écart avec l'échappée. On décide soit de la rattraper, parce que ça peut se décider, on se décide au contraire de la laisser s'épuiser avec 3-4 minutes devant pour laisser aux coureurs qui ont 3-4 minutes d'avance croire qu'ils peuvent aller au bout. En fait, il n'y a qu'eux qui croient, quoi. Et, alors, l'équipe du maillot jaune, une petite anecdote, a quand même un privilège, qui est une tradition dans le Tour de France depuis que le Tour arrive sur les Champs-Élysées. Le peloton doit laisser toute l'équipe du maillot jaune rentrer la première sur les Champs-Élysées, les uns derrière les autres. S'ils sont encore 9, les 8 équipiers et le maillot jaune en 9e position. Et ceux qui ont le malheur de contrevenir à cette règle, c'est arrivé à un jeune coureur français il y a 10 ans, grillé.
Mais grillé, ça veut dire quoi?
Qu'on ne laisse plus jamais rien gagner.
Ah oui, à ce point-là, les cyclistes peuvent être rancuniers.
Ah oui.
Ouais. Alors, je baigne pas mal dans le vélo depuis quelques jours parce qu'on diffuse sur l'équipe.
En ce moment même, vous y êtes là, Thomas.
L'émission L'équipe Vintage. Alors, en ce moment, il y a l'étape victorieuse de Richard Virenque à Morzine en 2000. Mais alors, j'ai quand même découvert dans votre livre Maillot jaune chez Grund l'histoire des demi-maillots jaunes en quelque sorte.
Ils sont trop courts.
Des demi-étapes. C'était quoi cette histoire, Claude Roussan?
Ah oui, le Tour jusqu'aux années 80, c'est pour les organisateurs pensant dynamiser la course, organiser des demi-étapes. C'est-à-dire, dans une journée, on avait une demi-étape le matin de 90 km, on s'arrêtait 2-3 heures, on massait, on restaurait, puis on repartait pour une deuxième demi-étape. En fait, c'était deux étapes dans la journée, mais plus courtes. Mmh. Il y a même eu des tiers d'étapes. Il y a un coureur qui s'appelle Wout Vakmans dans les années 90. Non, Marinus Vakmans, pardon. Wout Vakmans, c'était son oncle dans les années 50. Marinus Vakmans, un néerlandais, qui a porté le maillot jaune un tiers d'étape. Pendant 70 km, parce qu'il y avait trois bouts d'étape dans la journée. Oui. C'est-à-dire qu'il l'a pris au bout du premier tiers d'étape, il l'a porté pendant le deuxième, et à l'arrivée du troisième, c'était un autre qui l'avait. Plus court, ceci dit, parce que ça veut pas dire grand-chose. Ce qui est assez marrant dans l'histoire du Tour de France et du maillot jaune, c'est que le coureur qui l'a porté le moins longtemps, 10 minutes en course, le moins longtemps en course, c'est Patrick Sercu, un Belge qui était de la génération de Merckx.
Joli nom.
Et... Patrick Sercu, qui était un grand champion sur la piste.
Oui.
Et Patrick Sercu donc prend le maillot jaune un midi lors d'une demi-étape en Belgique. Et l'après-midi, il y a un contre-la-montre par équipe de 12 km qui ne dure que 10 minutes. Et il doit le rendre parce qu'il l'a perdu. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que Patrick Sercu a toujours été et est toujours aujourd'hui, parce que c'est deux vieux monsieur heureux du côté de Bruxelles, le meilleur ami d'Eddy Merckx. Et celui qui a porté le moins le maillot jaune et celui qui l'a le plus porté sont les deux meilleurs potes du monde.
Magnifique.
Et aujourd'hui, à 72 ans, tous les deux, ils font toujours du vélo ensemble.
Claude Droussan racontait ici même sur RTL l'histoire fantastique de Jean Robic il y a quelques jours. Il a une particularité, vous nous raconterez laquelle dans un instant dans la curiosité.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Des cheerleaders, je ne sais pas, mais de l'accordéon, oui, il y en a toujours sur la route du Tour de France. En 3 jours, le 104e tour partira de Düsseldorf en Allemagne. On a hâte de savoir comment les Français Bardet et Pinot vont se comporter face aux autres favoris, comme Christopher Froome, vainqueur l'an passé. Vont-ils rentrer dans la légende du Tour comme ceux qui en ont porté le maillot jaune et dont on découvre l'histoire sur RTL grâce à notre invité, le journaliste Claude Droussan. Un mot de ce Tour 2017, le tracé, c'est un tracé qui favorise les grimpeurs.
Il y a beaucoup de montagnes parce que c'est le premier tour de toute l'histoire qui explore tous les massifs montagneux. Il y a des Vosges, il y a du Jura, il y a des Alpes, des Pyrénées, du Massif central. Mmh. C'est la première fois. Donc il y a beaucoup beaucoup de montagnes, mais il n'y a pas le Tourmalet, il n'y a pas le Ventoux, il n'y a pas l'Alpe d'Huez. Mais il faut de toute manière bien grimper, mais il faut être aussi complet parce qu'il faut aussi descendre, il faut aussi rouler. Mmh. Donc il y a jamais le tour, vous savez, c'est faut effectivement grimper, mais ça suffit pas d'être grimpeur.
Ouais. Alors on souhaite à Bardet ou à Pinot, Bardet qui a fini deuxième l'an dernier, de vivre la même histoire que Jean Robic en 47. Pourquoi l'histoire de son maillot jaune est particulière?
Parce que c'est le seul coureur de l'histoire qui n'a jamais porté le maillot jaune en course. En 1947, les positions sont très serrées en tête. Tout est encore possible entre les 3-4 premiers. C'est un Italien qui s'appelle Pierre Brambilla qui porte le maillot jaune. Il y a une dernière étape, Caen Paris, qui passe par Rouen. À la sortie de Rouen, il y a une côte qui s'appelle Bon Secours. Et là, Jean Robic joue son va-tout parce qu'il peut encore gagner et il lâche Brambilla qui commet une erreur, c'est d'ailleurs... Et plutôt que de rester à surveiller Roubik, il fait le malin. Il y a un autre coureur, un outsider qui s'appelle Fakletner, un Français qui attaque. Et Brambilla se croit trop fort. Il essaie de combler le trou sur Fakletner.
Il se met dans le rouge.
Face au vent, il se met dans le rouge. Roubik le contre et il s'en va. Il arrive au Parc des Princes, 120 km plus loin. Il gagne le Tour de France. Il n'a jamais porté le maillot jaune. Il y a d'autres coureurs, deux autres coureurs dans l'histoire. Oui, il a porté le maillot jaune, mais seulement pour le Tour d'honneur au Parc des Princes, qui était un vélodrome à l'époque.
Ouais.
On jouait au foot au milieu, mais c'était une piste, c'est là qu'est arrivé le Tour de France jusqu'en 1967. Il a fait juste le Tour d'honneur avec son maillot jaune.
Et sur le podium, est-ce qu'il y avait un podium du Tour à l'époque? Peut-être pas d'ailleurs.
Il y a toujours eu un podium.
Il y a toujours eu un podium.
Ouais. Les trois premiers, en fait. Ouais. On ne faisait pas monter le vainqueur du Grand Prix de la Montagne, le vainqueur du classement par points. Mmh. On mettait les trois premiers en scène, du classement général.
Claude Doussin, vous publiez Maillot jaune, le Tour de France par ceux qui ont écrit sa légende. Livre édité chez Grund Édition. On y découvre l'histoire aussi de Jacques Anquetil. 50 jours en jaune pour lui dans toute sa carrière. Quand porte-t-il le maillot jaune pour la toute première fois?
En 57, son premier Tour de France, il a 23 ans. C'est un surdoué, on le met à la tête de l'équipe de France parce que pour 4 ans encore, le Tour se court par équipe nationale et pas des équipes de marque. Les Français sont les meilleurs, les plus forts. Il a autour de lui les 4, 5, 6 meilleurs coureurs du peloton autour de lui. Quand le Tour arrive à Rouen, le troisième jour, il se fait plaisir, il va gagner l'étape. Deux jours plus tard,
parce
il prend le maillot
jaune.
Parce qu'il est de Rouen, quasiment de Rouen, très très proche de là-bas. Et dans les Vosges, je crois, il prend le maillot, il le prend deux jours, et puis il le reprend dans les Alpes, et il ne le quitte plus. Il le porte 15 jours dans ce Tour. C'est
quel genre de leader, Jacques Anquetil?
Un personnage à part, un grand seigneur. Quelqu'un qui...
Chef d'équipe?
Un vrai chef d'équipe, oui, qui avait beaucoup de charisme, et quelqu'un qui voulait croquer la vie par tous les bouts et qui sans doute d'ailleurs en est disparu assez tôt, à l'âge de 53 ans.
Mmh.
Mais un homme magnifique en tout cas aussi.
Ouais. Et son Tour 1961 sera particulièrement marquant, pourquoi?
Parce qu'on estime, pas tout à fait, qu'il a porté le maillot jaune de bout en bout, parce qu'il l'a porté du premier soir au dernier soir. Il y a d'autres coureurs qui l'ont fait dans l'histoire, un luxembourgeois Nicolas Franz, un italien Ottavio Buttacchia, mais c'était bien avant la Deuxième Guerre mondiale, entre les deux guerres en fait. Mais Jacques Anquetil, c'est pas tout à fait vrai.
Pourquoi?
Parce qu'il y avait, le matin, il y avait ces fameuses demi-étapes. Rouen-Versailles, demi-étape du matin. Et là, son ami Darrigade, c'est son grand pote, dit « Jacques, il faut qu'on attaque, il faut qu'on les largue et tout, et il faut que tu aies le maillot jaune ce soir, parce que l'après-midi, il y avait un contre-la-montre à Versailles.
Mmh. »
Et donc, ils s'échappent, ils arrivent à une dizaine, Darrigade gagne l'étape, prend le maillot jaune, et l'après-midi, il y a le contre-la-montre, mais c'est Darrigade qui porte le maillot jaune. Mais bien entendu, Anquetil était le meilleur rouleur, c'est peut-être le meilleur coureur de contre-la-montre de tous les temps. Il a repris le maillot jaune, donc il l'avait le premier soir.
Donc il l'a eu tous les soirs de ce Tour, pendant tous les kilomètres parcourus.
Pas tout à fait.
Ok, mais c'est quand même assez légendaire aussi. Et la légende d'Anquetil, elle doit beaucoup forcément à son duel avec Raymond Poulidor. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, il faut quand même rappeler que la France était divisée. Quoi. Il y avait
coupé en deux.
Les pro-Anquetil et les pro-Poupou, les pro-Poulidor.
Exactement,
c'est ça,
ben, c'était les deux grands champions de l'époque. Il n'y avait pas beaucoup de nationalités aussi dans le Tour. Il y avait des Italiens, des Belges, un peu d'Espagnols, des Luxembourgeois, mais c'était tout. Et il y avait donc une nation, la France, qui était très forte et qui avait surtout... De 62, dans le milieu des années 60, les deux plus grands champions, effectivement, Poulidor et Anquetil. Et leur duel atteint un sommet, on le sait, dans le Puy-de-Dôme, en 1964, où à 48 heures de l'arrivée, tout peut arriver. Poulidor, ils montent le Puy-de-Dôme côte à côte, ils se touchent les épaules. Il y a cette fameuse photo où on voit, ils se touchent les épaules. Mais en fait, après, ils ont témoigné tous les deux qu'ils étaient complètement cuits, tous les deux, tellement ils s'étaient bagarrés. Et Anquetil était à la limite, mais Poulidor n'avait pas la force d'attaquer. Et quand Poulidor n'a même pas attaqué, il s'est mis en danseuse, il est parti, Anquetil a résisté, a gardé quelques secondes d'avance. Comme Anquetil, et pour Anquetil, c'était très important, parce qu'il y avait un contre-la-montre le dernier jour, et il fallait qu'il reste devant Poulidor pour partir dans le contre-la-montre derrière Poulidor. Ça le permettait de l'avoir en point de mire, et Anquetil a pu garder son maillot jaune jusqu'au bout grâce à ça.
Qu'est-ce qui lui manquait à Poulidor pour être le premier pour remporter le Tour de France?
Alors,
le petit truc de la fin, c'est ça là?
Non, petit peu plus de chance, parce qu'il a souvent été malchanceux dans des tours où il n'y avait pas Anquetil après, parce que Poulidor, quand même, c'est extraordinaire. Il a commencé sa carrière professionnelle avec Louison Bobet, il a ensuite connu Anquetil, il a ensuite connu Merckx, Il les a bataillés. Ouais. Et il a fini quand Bernard Hinault arrivait. Il a eu une carrière incroyable étalée sur une quinzaine d'années où il a bataillé contre les plus grands. Et il y avait des Tours de France entre 66 et 69 où Merckx arrive, 66, 67, 68, où là, Poulidor a une malchance incroyable. Il chute, il se fait accrocher par un motard, enfin, il arrive tous les malheurs du monde, alors qu'il aurait sans doute gagné facilement ces tours-là. Et puis, sans doute, manquait-il aussi un peu d'ambition. Parce qu'il était élevé dans la modestie, dans une ferme du Limousin. Et pour lui, ça allait bien comme ça, quoi. Voilà.
Mmh. Et puis il était populaire, et ça, c'était très agréable.
C'était très agréable, mmh. Oui, effectivement.
Il l'aurait été aussi en gagnant le tour, mais...
et il l'est encore beaucoup. Alors, ce qui est extraordinaire, une petite anecdote, c'est que depuis des années et des années, Poulidor, qui n'a jamais porté le maillot jaune une seule journée, ça c'est aussi incroyable, c'est une injustice incroyable, c'est le coureur le plus connu qui n'ait jamais porté le maillot jaune. Ouais. Il est aujourd'hui ambassadeur du parrain du maillot jaune, une banque que vous connaissez tous.
Eh oui, effectivement. LCL, pour ne pas la nommer, autre légende du Tour, celle des malchanceux, ces coureurs en jaune qui ont perdu leur tunique lors de chutes mémorables.
Vous écoutez RTL.
RTL.
Première radio de France.
Thomas
Hugues. La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Les maillots jaunes sont dans l'œil de notre curiosité et en couverture du livre de notre invité, le journaliste Claude Droussan. On va parler maintenant des malchanceux parce qu'il y en a aussi, ces hommes en jaune pour qui le tour se transforme en cauchemar. Et on va commencer avec votre coureur préféré, Bernard Hinault. On est en 1980. Déjà, pour situer qui il domine le tour, on peut dire qu'à ce moment.
Il domine le cyclisme déjà en 1980. Il a déjà gagné deux Tours de France. Oui, il est en course pour son troisième tour. Mmh. Le favori, il n'y a pas d'adversité. Quoi. La première semaine, il gagne trois étapes. On a l'impression qu'il n'avait jamais fait ça la première semaine. Il gagne trois étapes. Et puis, il pleut tous les jours. Il fait très mauvais en juillet 80. Et cette pluie lui cause une tendinite. Il a très mal au genou. Il ne peut pas continuer. Il arrive au pied des Pyrénées à Pau. Il est maillot jaune. Il finit l'étape. Il ne dit rien à personne. Et il décide, après l'étape, avec Cyril Guimard, qui était son manager, de mettre un terme à ce Tour de France où il souffrait trop, il ne pourrait pas monter le premier col. Et il va prévenir, il a la politesse d'aller prévenir les organisateurs, Félix Lévitant et Jacques Godet, les organisateurs historiques du Tour de France, qui dînaient à l'hôtel Continental à Pau, tout le monde qui était le QG du Tour de France, l'hôtel Continental qui existe toujours, qui est moins le QG du Tour de France aujourd'hui. Et donc
il vient leur dire
on renonce pour eux, c'est une catastrophe pour les organisateurs. Ah oui. Et des journalistes sont prévenus, Hinault va partir, donc des journalistes arrivent et il sort par les cuisines
pour échapper aux photographes et à la presse. Ouais.
Voilà. Et il avait un équipier qui s'appelle Hubert Arp, qui est aujourd'hui qui tient aujourd'hui des boutiques de vélo à Lourdes, qui habitait déjà à Lourdes et qui l'emmène chez lui. Il va se réfugier chez son ami Hubert Arp à 40 km de Pau pour être tranquille.
Hinault qui a été donc en jaune sur chacun des Tours de France auxquels il a participé, c'est incroyable.
Sur les 8 Tours de France auxquels il a participé, il a toujours été maillot jaune une fois au moins.
Ouais. Et quand il a fini, il a été soit premier, soit deuxième.
Exactement.
Ça vous pose quand même le palmarès du bonhomme. On l'a un peu évoqué tout à l'heure, c'était un leader charismatique évidemment, un peu autoritaire quand même.
Oui, un peu autoritaire, mais autoritaire sur tout le monde. Oui,
le patron du peloton, quoi.
Tout le monde. C'est assez drôle parce que ça s'est fait naturellement. En 78, il a que 23 ans, il est tout jeune, il est champion de France, donc il a le beau maillot bleu, blanc, rouge. Et à cause de ces tiers d'étapes et tout ça, là, les coureurs en ont marre, ils sont trop fatigués, on leur impose vraiment des contraintes de s'arrêter, repartir, tout ça. Et ils arrivent à Valence d'Agen et tout le peloton met pied à terre à 200 mètres de l'arrivée et fait les 200 mètres à pied pour protester. Donc ils décident de pas faire le sprint. Et les coureurs se regarde qui on va mettre devant, puis tiens, hop, certains prennent Hinault par la manche, je dis toi, mets-toi devant parce que t'as le maillot de champion de France. Et il s'est retrouvé devant ce jour-là un petit peu par hasard, même s'il était un des favoris du tour, mais il n'était pas encore installé. Et bah, cette première place, il l'a toujours gardée après.
C'est marrant ça, on lui a presque donné un peu par hasard. Et en
à 23 ans, les autres lui ont dit c'est toi le patron, comme s'ils admettaient que ça allait être lui le patron.
Et il a su transformer
l'essai. Et le mot que Hinault a toujours le plus employé dans ces interviews, c'est du genre, c'est qui le patron? Le patron, pour Ino, c'est un mot vraiment qui a sens, vraiment.
Il y a un autre match chanceux dont on a déjà parlé dans la curiosité, c'est l'Espagnol Luis Ocaña. Alors, on est en 1971. Où se déroule l'étape et quelles sont les conditions météo? Parce que c'est souvent lié à ça. Alors,
on est dans les Pyrénées. Luis Ocaña a fait un truc incroyable. Il a relégué Merckx à 9 minutes dans une étape des Alpes. Et là, on est dans les Pyrénées. Il reste deux étapes de montagne. Merckx dans sa tête s'estime un peu battu, mais il veut tenter le tout pour le tout, et on monte un col moyen sur le côté du côté où on le monte cette année-là, qui s'appelle le col de Mante, et l'orage se déchaîne à 500 mètres du sommet, et Merckx se dit il y a peut-être quelque chose à faire, parce qu'il savait qu'Ocaña descendait pas très bien, et surtout la descente du col de Mante sur la vallée opposée, c'est un truc terrible. La pente est terrible, il y a des grandes lignes droites, on va à une vitesse folle,
et en plus il y a
des lacets, tout ça, et là il y a l'orage, et Merckx provoque en fait, et il part dans la descente, et Ocaña peut pas laisser partir Merckx, donc il essaie de le suivre. Premier virage, il glisse, il tombe, il se relève, un deuxième coureur, Zotmelk, arrive, il va tout droit aussi, il le percute, donc Ocaña retombe à terre, il se relève malgré tout, et un troisième coureur, Joaquim Agostinho, arrive, le percute. Et là, il est dans le coma. Mais il est dans le coma, on ne sait pas trop, mais en tout cas, il est complètement choqué par ce qui lui arrive. Ouais. Ses blessures n'étaient pas si graves que ça. Il était un petit peu traumatisé au cervical, mais il aurait peut-être pu repartir. Mais c'était un drame absolu. En plus, il y avait de l'orage, il y avait des éclairs. Enfin, c'était un truc incroyable. Un torrent de boue qui coulait à côté d'eux. Enfin, ça fait des images en noir et blanc sublimes, ouais. En fait, à vrai dire.
Claude Roussan, vous racontez cette histoire et beaucoup d'autres dans ce livre Maillot jaune, publié aux éditions Grunt. Alors, parmi les malchanceux, il nous reste deux minutes, raconter aussi Laurent Fignon. D'abord, c'est un jeune homme pressé, un vainqueur pressé. Pourquoi ?
Un vainqueur pressé, mais un chanceux d'abord. Oui. Parce que quand il gagne son premier tour, Laurent Fignon, en fait, il sort des Pyrénées à 5 minutes du maillot jaune, il s'appelle Pascal Simon. Il y a la première étape après les Pyrénées, Pascal Simon tombe, il se fait l'omoplate. Il continue 5 jours, mais il abandonne. Il abandonne et il laisse le maillot jaune à Laurent Fignon, qui a donc saisi lui aussi cette chance, qui est tout de suite devenu un champion. Les dernières étapes du tour, il les a dominées. Le tour d'après, où Ino revenait parce qu'Ino était absent, il le domine aussi.
Mais il devient un malchanceux quelques années plus tard.
Parce que ce qu'on retient, ce sont les 8 secondes effectivement des Champs-Élysées en 1989. Il est maillot jaune, il a 50 secondes d'avance, il reste 25 km à courir. Il ne doit jamais perdre, mais il est blessé à la selle. Il ne peut plus vraiment s'asseoir sur son vélo et il fait ce contre-la-montre un peu de guingois. Et Greg LeMond, qui a une technologie nouvelle, le guidon de triathlète, fait une étape magnifique et reprend pour 8 secondes ce maillot jaune. Et c'est un drame absolu pour Fignon. Ça. Qui n'a plus jamais été le même et qui n'a plus jamais fait grand-chose d'important dans sa carrière.
À cause de cette défaite, ça l'a un peu brisé.
Je crois que Laurent, ça a été un traumatisme incroyable pour lui. J'ai eu l'occasion d'en parler longuement avec lui. Il n'a jamais oublié, ça a vraiment été il a trouvé ça, il a toujours pensé que c'était une injustice terrible. Et puis, il pensait que 3 Tours de France gagnés, il avait raison, c'était beaucoup plus glorieux que 2 seulement. Voilà.
Merci beaucoup, merci Claude Droussan. Votre livre Maillot jaune, le Tour de France par ceux qui ont écrit sa légende, est publié aux éditions Grunt.
C'est la fin de cette émission, vous pouvez nous podcaster sur rtl.fr pour nous faire découvrir à vos amis, maillot jaune ou pas.
Vous écoutez RTL.